Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, aucun de nous ne reviendra, de Charlotte Delbault. À son retour de déportation, dès qu'elle a pu tenir debout et tenir une plume, comme elle le disait, Charlotte Delbault écrit « Aucun de nous ne reviendra », titre emprunté à un vers d'Apollinaire. Charlotte Delbault est déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943. Elle fait partie d'un convoi de 230 femmes, dont 49 seulement reviendront. En 1946, Delbault écrit « Aucun de nous ne reviendra », témoignage de son expérience concentrationnaire. « Aucun de nous ne reviendra » est un récit, un mémorial de ce que les déportés ont vécu pendant leur rapide passage à Auschwitz. À travers la plume de l'auteur se détache une réalité face à laquelle il est impossible de ne pas être horrifié. Charlotte Delbault évoque les souffrances subies d'une manière si intense que la lecture s'entrecoupe de petites pauses afin de s'accorder un moment de répit. La force du récit, la puissance des mots, accordés avec juste mesure, les détails volontairement narrés et les descriptions d'horreur font découvrir le quotidien atroce que subissent les détenus d'Auschwitz. Son livre commence par l'arrivée d'un convoi de Juifs de l'Est de l'Europe dont elle s'attache à montrer l'humanité des personnes descendant du train. Elle a dit « Ce livre répondait à tant et tant d'importance. Ce serait peut-être la seule œuvre de ma vie, mais il fallait que ce fût une œuvre. Mais pour m'assurer que ça n'était une, il faudrait que je le revoie après l'avoir mis de côté 20 ans. Aucun de nous ne reviendra » est publié en mars 1965, dans la collection de la résistante collecte Audry, chez Gontier. Charlotte Delbault est née le 10 août 1913 à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. Aînée des 4 enfants d'une famille d'immigrés italiens, Charlotte Delbault est la fille d'un chef monteur-riveteur. Elle suit une formation de sténodactylo. Elle adhère en 1932 aux Jeunesses communistes, puis en 1936 à l'Union des jeunes filles de France, fondée par Daniel Casanova. Elle étudie la philosophie avec Henri Lefebvre, de 1930 à 1934, dans le cadre de l'université ouvrière. En 1934, elle y rencontre Georges Dudac, jeune militant communiste, qu'elle épouse en 1936. De 1937 à 1939, Charlotte Delbault écrit dans les pages littéraires et culturelles des Cahiers de la jeunesse dont Georges Dubac est le rédacteur en chef. C'est dans le cadre de ce travail qu'elle réalise une interview de Louis Jouvet. Frappée par la qualité de sa transcription, Jouvet l'engage comme assistante. De 1937 à 1940, elle prend en note les cours de Jouvet au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Elle s'engage en 1941 dans la Résistance, avec son mari Georges Dubac, qui sera arrêté avec elle. Georges Dubac est fusillé au fort Mont-Valérien le 23 mai 1942, à l'âge de 28 ans. Charlotte Delbault est déportée à Auschwitz-Birkenau, dans le convoi du 24 janvier 1943, dit le convoi des 31 000, qui comprend 230 femmes, résistantes pour la majorité d'entre elles. Elle sera l'une des 49 rescapées de ce convoi. Pendant sa déportation, elle décide qu'à son retour, elle écrira une œuvre sur la déportation qu'elle a traversée. Entre 1946 et 1982, elle écrit 6 livres, tous différents par leur point de vue et leur forme. Revenue des camps et après une convalescence, Charlotte Delbault retravaille auprès de Louis Jouvet jusqu'en 1947. Elle reste une femme engagée. Elle prendra notamment position contre la guerre menée par la France en Algérie et sera la première, en 1974, à réagir publiquement aux propos négationnistes de Robert Faurisson. Elle décède à l'Hôtel Dieu à Paris, le 1er mars 1985. Rue de l'arrivée, rue du départ. Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle « À l'arrivée » et un café qui s'appelle « Au départ ». Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits, qui ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Ceux qui en avaient ont emporté de l'or parce qu'ils croyaient que l'or pouvait être utile. Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher, parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés. Un enfer, possible. Pourtant, ils n'y croyaient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer. Mais puisqu'ils y sont, ils s'arment et se sentent prêts à l'affronter. Avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec les souvenirs de famille et les papiers de famille. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. Ils attendent le pire. Ils n'attendent pas l'inconcevable. La gare n'est pas une gare. C'est la fin d'un rail. Ils regardent et ils sont éprouvés par la désolation autour d'eux. Au départ de France, d'Ukraine, d'Albanie, de Belgique, de Slovaquie, d'Italie, de Hongrie, du Péloponnèse, de Hollande, de Macédoine, d'Autriche-Herzégovine, des bords de la mer Noire et des bords de la Baltique, des bords de la Méditerranée et des bords de la Vistule. Ils voudraient savoir où ils sont. Ils ne savent pas que c'est ici le centre de l'Europe. Ils cherchent la plaque de la gare. C'est une gare qui n'a pas de nom. Une gare qui, pour eux, n'aura jamais de nom. Par cinq, ils prennent la rue de l'arrivée. C'est la rue du départ. Ils ne savent pas. C'est la rue qu'on ne prend qu'une fois. Ils marchent bien en ordre, qu'on ne puisse rien leur reprocher. Ils arrivent à une bâtisse et ils soupirent. Enfin, ils sont arrivés. Et quand on crie aux femmes de se déshabiller, elles déshabillent les enfants d'abord en prenant garde de ne pas les réveiller tout à fait. Après des jours et des nuits de voyage, ils sont nerveux et grognons, et elles commencent à se déshabiller devant les enfants. Tant pis, et quand on leur donne à chacune une serviette, elles s'inquiètent. Est-ce que la douche sera chaude parce que les enfants prendraient froid? Et quand les hommes, par une autre porte, entrent dans la salle de douche nue aussi, elles cachent les enfants contre elles. Et peut-être alors, tous comprennent-ils. C'est la plus grande gare du monde pour les arrivées et les départs. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.